Kelly, tu es le président de Sanivac, une entreprise familiale de troisième génération spécialisée dans les services sanitaires et environnementaux. Depuis ta prise de direction en 2017, Sanivac a connu une croissance impressionnante, multipliant par 10 son chiffre d'affaires. L'entreprise reconnue pour ses contributions significatives dans les secteurs des fosses septiques, des services environnementaux et plus récemment dans la location de structures sanitaires en plastique est devenue un acteur majeur dans son domaine. Et ça, Kelly, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Et Vincent, avant d'aborder la belle histoire de Sanivac, est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien?
Bien sûr, au quotidien, l'entreprise Sanivac, on est dans toutes sortes de services. On touche à plusieurs sphères d'activité. Dans le fond, ça reste toujours dans le même principe, autant dans le pluvial, dans le sanitaire et dans tout ce qui a rapport à l'environnemental. On est dans la location de toilettes portatives en plastique, la location de blocs sanitaires en tôle, les roulottes sanitaires, blocs sanitaires, c'est vraiment une des forces d'entreprise. On a adapté notre gamme de services de location avec plusieurs modèles différents et indépendants avec les années. Et suite à tous ces services-là qui sont très bien connus là, de tout le monde, on a d'autres services. Sanivac, c'est pas seulement des toilettes, c'est beaucoup d'autres services. Un service qui me vient en tête, c'est l'hydroexcavation. L'hydroexcavation, c'est un service de camion vacuum avec un boom et de l'eau. Et on creuse le sol pour éviter d'endommager les infrastructures souterraines. Alors, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est rendu d'une grande ampleur dans l'entreprise. On a aussi la vidange de fosses septiques, vidange de trappes à graisse, pompage de tout genre, tout ce qui a rapport au nettoyage d'égouts étant municipal, commercial, résidentiel, institutionnel, donc que ça soit d'un gros tuyau à un très petit tuyau, tout ce qui est dans le sol, on lui touche et on le nettoie. Alors, c'est un peu ça, Sanivac. C'est vraiment toutes sortes de sphères d'activités qui se font avec un camion vacuum ou un camion pour nettoyer à pression d'eau. Alors, ça ressemble beaucoup à ça. Et il y a beaucoup de locations de toilettes portatives. Là, quand on parle de Sanivac, on est très reconnu pour ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de démystifier pour voir que notre entreprise, c'est pas seulement ça.
Fantastique. Ben écoute, il y a beaucoup à décortiquer ensemble. Donc, comme je l'ai mentionné, Vincent, tu fais partie de la troisième génération de l'organisation. Tu as vu beaucoup de choses. Tu as commencé sur le terrain au début des années 2000, mais l'organisation revient à beaucoup plus en arrière. Donc, l'entreprise a été fondée en 1961. Il y a eu beaucoup de phases d'évolution, de transition. Vous êtes passé des services de fosses septiques dans les années 70, par la suite dans des services davantage environnementaux dans les années 80. Il y a eu beaucoup par la suite d'évolution au début des années 2000. Au meilleur de tes connaissances, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qu'on te dit? Comment l'organisation a été lancée à la base? Est-ce qu'on t'en a parlé un petit peu quand t'es rentré dans l'entreprise?
Bien sûr. Disons que mon père me l'a raconté souvent, l'histoire, avant de s'endormir. Quand j'étais jeune, c'était la petite histoire avant de faire dodo. Donc oui, on a entendu parler souvent. L'entreprise, ça a commencé en 1961. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui cherchaient un domaine d'activité à partir en affaires dedans. Et ils se sont lancés parce qu'ils voulaient faire vider leur fosse septique et le délai pour la vidange était extrêmement long. Alors, mon grand-père s'est dit, il manque d'entrepreneurs dans ce domaine-là, je vais me lancer. Donc, il se lance en 1961 dans la vidange de fosse septique. Je commencerai pas à tout vous expliquer l'histoire parce que ça finira plus. Mais par la suite, après avoir commencé la vidange de fosse septique, est venue l'excavation pour installer les fosses septiques. Par la suite, l'excavation de tout genre et le déneigement en hiver pour tenir occupé mon grand-père et ses employés. Par la suite, dans les années 80, les frères Kelly, qui est la deuxième génération, donc les fils de mon grand-père, sont joints à l'entreprise et ils ont commencé à faire le nettoyage d'égouts. Donc, ils vidaient des fosses septiques, faisaient de l'excavation et nettoyaient des égouts de tout genre et des travaux de pompage avec des camions vacuum. Dans les années 80, ils ont pris la décision de vraiment se focusser sur les services environnementaux. Alors, ils ont mis de côté le déneigement, ils ont mis de côté l'installation de fosses septiques pour vraiment poursuivre dans la sphère d'activité qu'on connaît aujourd'hui, ce qui est camion vacuum, services environnementaux. Donc, dans les années 80, ils ont poursuivi le rêve de mon grand-père. Mon grand-père a cédé sa place pour vendre à la deuxième génération. La deuxième génération a continué, vidange de fosses septiques, nettoyage d'égouts, services environnementaux de tout genre, pour que dans les années 90, l'entreprise atteigne un autre niveau. Ils ont déménagé dans un parc industriel, commençant à être de plus en plus grand, de plus en plus gros. Et ils avaient beaucoup de demandes pour la location de toilettes portatives. C'est environ en 1994 que la location de toilettes portatives s'est joint à la gamme de services de l'entreprise. Et c'est là, à partir de 94, qu'on a reconnu le Saint-Nivac d'aujourd'hui, qu'on peut comprendre aussi le Saint-Nivac d'aujourd'hui. Ça, de 94 à aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément de changements au niveau de l'offre de services d'entreprise. On est dans le service environnementaux, travaux de tout genre, pompage, nettoyage d'égouts, vidange de fosses septiques, vidange de trappes à graisse, pour que dans les années 90, poursuivre avec la location de toilettes portatives. Et ils ont fait un bon bout de chemin sur ces services-là. Dans les années 2000, les frères Kelly ont décidé d'installer au bout de la rue Huotte à Notre-Dame-de-l'Île-Pérou, le seul parc industriel de la ville. Ils ont décidé de mettre leur pied là et de s'installer, de bâtir leur premier garage. Et de 2000 à 2012, l'entreprise a connu vraiment son envol pour passer d'une dizaine d'employés à environ une quarantaine d'employés en 2000 et 2012, en conservant vraiment l'esprit familial de l'entreprise. Et
c'est là qu'on a vraiment... Toi.
Oui, exactement. Exactement. J'ai commencé en 2005 à temps partiel, en 2008 à temps plein. Et vraiment, de 2008 à 2013, j'étais chauffeur de camion. Et c'est comme ça qu'on a appris la game et comment ça fonctionne. Donc, les quatre frères étaient là, ils possédaient l'entreprise. Il y en a un des quatre qui a pris sa retraite au début des années 2000. Les trois autres frères ont continué l'entreprise. Et s'est joint ma sœur Caroline, David, qui est mon cousin, et moi-même, comme employé de l'entreprise. David était opérateur de camion, moi aussi, et Caroline travaillait au service à la clientèle. Donc, on a fait un bout de chemin là, entre les années 2000 et 2017, l'année où est-ce qu'on a acheté. C'est vraiment comme ça que s'est déroulé là le développement de l'entreprise et toute la gamme de services qu'on connaît aujourd'hui. La gamme de services, elle est rendue exponentielle. Je veux pas en parler parce que ça finit plus. Dans le fond, quand le client a besoin d'un service qui a rapport au domaine d'activité dans lequel on est, on se dit oui, on s'arrange et on s'adapte aux besoins.
Ben, c'est que vous avez compris une catégorie qu'on dirait, il n'y a pas énormément de joueurs qui se sont intégrés et vous, vous la dominez de la tête et des épaules maintenant. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, mais vous avez fait je ne sais pas combien d'acquisitions dans les dernières années qui vous donnent une place de leader sur le marché. Mais bon, on va retourner un petit peu dans l'ordre chronologique. Donc, toi, tu rentres dans l'organisation 2005-2006, temps partiel. Ultimement, tu rentres à temps plein en 2008. Et tu me disais, Vincent, dans des entretiens préalables que toi et moi, on avait ensemble, que fallait que tu te mettes les mains un petit peu dans chacun des départements pour bien comprendre. Donc, avant de rentrer vraiment dans le domaine administratif un peu plus de l'organisation, je pense que tous les services, tu les as fait en tant qu'employé, là.
Oui, j'ai commencé comme laveur de toilettes dans notre atelier de lavage de toilettes. Je faisais le ménage de soir, donc l'autobus scolaire nous débarquait à l'entrée de la rue Huotte, juste à côté du garage. Donc le soir, c'était le ménage. La fin de semaine, on lavait des camions et l'été, on lavait des toilettes. Donc, on avait environ trois segments là, d'activité, les petits Kelly. Donc, c'était pas mal nos occupations. C'est là-dedans qu'on a grandi. Et vraiment, le suite à ça, quand on a commencé à travailler plus à temps plein vers 2005, on a commencé à être opérateur, chauffeur de camion, de toucher à toutes sortes d'activités. Dans le fond, nos parents voulaient nous montrer la job en nous assignant qu'un camion. Alors, on se promenait d'un camion à l'autre pour apprendre chacun des services d'entreprise et remplacer pour les vacances, remplacer pour les absences. Et on va faire un mauvais jeu de mots, mais apprendre sur le tas. C'était pas mal ça. C'est pas mal comme ça qu'on a appris.
Et bon, là, je pense que, comme tu l'as mentionné, de 2000 à 2012, il y a eu une première vague de croissance. On passe de 10 à une vingtaine, trentaine, quarantaine d'employés. Et là, un jour, quand toi, t'es rendu un petit peu plus dans le domaine administratif de l'entreprise, dans les sièges sociaux, tu te mets la main à la pâte, tu comprends un petit peu plus comment que la structure de l'organisation fonctionne. Ton père vient te voir et il te dit « Écoute Vincent, j'ai finalement trouvé un acheteur parce qu'il voulait vendre l'organisation de ce que j'ai cru comprendre. » Comment tu réagis quand il vient te voir et qu'il te dit ça? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu penses peut-être déjà à comment tu pourrais t'y prendre pour toi, peut-être présider l'organisation?
Oui, exact. Dans le fond, quand mon père est venu nous annoncer ça, j'étais seul avec lui et il m'a dit, j'étais à son condo en Floride, ben franchement, on lavait son auto dans le stationnement dehors et les deux, on jasait parce qu'on n'avait pas souvent le temps de se parler là, avec tout le travail. Et mon père arrive et il me dit, on a trouvé un acheteur, on aimerait vendre et j'aimerais savoir comment tu te sens là-dedans et est-ce que tu restais? Et j'avais 23 ou 24 ans à l'époque et je lui ai dit, moi, j'accepte pas ça. Je vais aller travailler ailleurs et c'est tout. Tant qu'à travailler pour l'ancien propriétaire, j'étais habitué d'une façon, je vais aller travailler ailleurs. Donc, il dit, OK, mais ça veut dire que t'es pas content. Je dis, non, pas du tout. Il dit, est-ce que tu aimerais acheter? Mais je dis, tu sais bien que j'aimerais acheter. Mais à l'époque, mon père et ses frères croyaient pas que c'était possible de pouvoir financer ça à l'âge qu'on avait, Caroline, David et moi, comme troisième génération, de financer une acquisition de cette ampleur. Donc, je lui ai dit, ben, regarde, Je vais partir à la chasse et je vais aller rencontrer autant des propriétaires d'entreprise, je vais aller rencontrer du monde qui ont vécu ce que je vais vivre si je vais de l'avant et je vais leur demander carrément qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fonctionné et quelle méthode vous avez employée pour faire le financement ou le rachat d'une autre génération avant vous, ou le rachat complet d'une entreprise. Et c'est vraiment de là que c'est parti. Caroline, David et moi, on voulait acheter les trois. C'est sûr que mon intérêt était très déterminé. Ma sœur et mon cousin étaient prêts à acheter si j'avais l'intérêt d'acheter. Donc, j'ai montré le goût d'avancer et ils m'ont suivi là-dedans. Donc, on est allé vraiment rencontrer des propriétaires d'entreprise, des clients qu'on avait à l'époque et qui ont ouvert un peu leur jeu pour nous montrer comment qu'on peut faire... Et que c'est faisable, tout est faisable, dans le fond, quand on est bien entouré. Donc, c'est parti de là. Et on est revenu avec un plan et on a présenté ça à nos parents. Donc, les trois frères ont accepté de nous écouter et ils ont dit oui. Donc, on a fait venir les financiers, la banque, et on a présenté le projet. Et la banque aussi a dit oui. Alors, on était vraiment épatés. On croyait pas que c'était faisable. C'est sûr qu'aujourd'hui, une entreprise de notre taille, ça n'aurait jamais été possible. Mais à l'époque, une entreprise d'une cinquantaine d'employés, soixantaine d'employés, c'était faisable. Et on l'a fait. Et je crois que ce qui nous a démarqué et qui a fait que c'était possible, c'est l'expérience des 10 dernières années avant que la banque reconnaissait dans notre expérience en tant que jeune leader. Ils voyaient qu'on avait travaillé longtemps dans l'entreprise avant, donc ils étaient plus prêts à embarquer que quelqu'un qui peut-être sort de l'école ou qui a jamais vraiment connu l'entreprise dans le passé.
Donc, vous allez voir les banques. Les banques embarquent dans le jeu. On se dit, écoutez, on comprend votre dynamique, on comprend votre vision, on vous prête l'argent. Donc, vous faites la transaction, mais là, par la suite, la banque, va falloir la rembourser année après année. C'est quoi le plan? Quelle est la vision de croissance? Parce que là, je peux pas croire que toi, tu vas simplement racheter l'organisation et tu vas accepter le statu quo, là.
Okay, non. Quand on a acheté l'entreprise, on ne connaissait absolument rien à la gestion. On connaissait rien aux finances. On connaissait rien à toute autre tâche qui n'était pas opérationnelle. On connaissait excessivement bien nos opérations, mais on devait apprendre tout le reste. Et j'ai autant de souvenirs, je suis sorti de la salle de rencontre, signe en haut, signe en bas, à peu près 2 pieds de documents. Et je suis sorti de la salle de rencontre et la première affaire que j'avais à faire, c'est d'aller faire des routes de livraison de toilettes pour le lendemain parce que je n'avais pas de dispatch. Donc, j'étais propriétaire d'entreprise et j'étais dispatch et j'étais tout autre tâche connexe et c'était pas fonctionnel. Ça pouvait pas fonctionner. Et j'avais pas réalisé, mais acheter une entreprise et l'endetter, faut aussi rembourser ça. Donc, du jour au lendemain, une nouvelle acquisition, beaucoup de prêts mis en place pour libérer et faire que l'acquisition soit possible. Il fallait augmenter l'entreprise, il fallait augmenter le chiffre d'affaires, il fallait augmenter les revenus parce qu'on n'allait pas survivre si on restait à la taille de l'entreprise qu'on était à l'époque. Donc, rapidement, la première fois qui m'est venue en tête, c'est un instinct de survie. Je pense que ça a été le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir. Il faut que ça survive. Comment je vais faire? Ben, il faut que je m'entoure parce que je ne peux pas faire tout moi-même. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, il faut que je m'entoure, il faut que je réussisse à monter des départements fonctionnels sans ma présence et faire qu'on augmente dans les ventes et d'apprendre tout le reste au fur et à mesure. Donc, commencer à apprendre les finances, commencer à apprendre l'administration, les ressources humaines, tout ce qui vient avec le package des propriétaires d'entreprise. Je peux dire que ça aussi, je l'ai appris un peu sur le tas. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on a survécu. C'est un instinct de survie en continu pendant les deux premières années. Là, c'est sûr qu'on dit souvent que c'est les cinq premières années, mais dans mon cas, ça a été les deux premières années qu'il a fallu survivre et on a réussi. Je pense que c'était quelque chose qui nous laissait pas place à d'autres choses que de se dépasser, de se donner. Parce que un moment donné, c'est comme si tu vois ta maison qui est en train de brûler, tu sais que tes enfants sont en dedans. Ça se peut que tu y ailles quand même si c'est pas très intelligent. Mais on est allé, on a réussi à faire survivre, on a fait prospérer. Il y a eu plusieurs personnes qui croyaient pas qu'on soit capable, mais on a appris vite. Je pense que plus vite qu'on fait des erreurs, plus vite qu'on peut se dépasser, plus vite qu'on passe au prochain niveau.
Bien sûr. Et bon, donne-nous des anecdotes. La survie, quelles sont les anecdotes croustillantes que tu pourrais nous dire? Parce que bon, ton père t'amène cette idée-là qu'il veut vendre en 2013. Finalement, c'est quoi? C'est 2016-2017 que la transaction s'est clôturée entre vous deux, c'est
exactement,
ça?
Exactement, 2017, ça s'est finalisé.
Donc 2017, t'es président d'entreprise avec tes copropriétaires, tes partenaires d'affaires. Parle-nous un petit peu de 2017 à 2019. Quelles anecdotes tu pourrais partager avec l'audience? Qu'est-ce qui a été difficile? À quelle vitesse vous avez été capable également de faire croître l'entreprise?
Exactement. Mon comptable m'avait dit, Vincent, si tu fais 50% d'augmentation de chiffre d'affaires, l'année suivante, tu devrais faire faillite. C'est souvent ce qu'on voit dans le domaine. Ben, je lui ai dit, moi, je vais être l'exception. Donc, on est parti comme ça. J'ai écouté, j'ai essayé d'apprendre, mais les anecdotes en bout de ligne, c'était de faire des erreurs monumentales, des choses de novice, et on en a fait. Et pourtant, on les a juste faites une fois. Alors, je crois que d'avoir fait des erreurs, mais de les avoir faites seulement une fois, ça nous a fait apprendre. Et aujourd'hui, on en fait encore des erreurs, on en fait tous les jours, mais on en a fait des erreurs, là, vous pourriez pas croire. Prenez quelqu'un qui a 25 ans, qui devient PDG d'une entreprise d'une soixantaine d'employés, qui n'a pas d'études en administration des affaires, qui n'a pas d'études en administration tout court et qui n'a aucune étude tout court. J'ai un secondaire 2. Donc, je connaissais les opérations et je savais qu'il fallait faire de l'argent. C'était pas mal comme ça que je fonctionnais. Alors, faites-vous un topo mental sur qu'est-ce qui est arrivé. Mais il y en a eu des erreurs. Et je peux pas commencer à vous les nommer parce que ça finirait pas. À chaque jour, chaque année, c'était phénoménal. Donc, ce que je faisais de 2017 à aujourd'hui, c'est j'allais m'installer dans un département. Je le créais, je me créais une relève et je passais un bon un an assis avec le monde, essayer de faire que le département soit fonctionnel, essayer de le faire rendre rentable parce que rapidement, on m'a dit en affaires, si tu veux être bon, faut que tu connaisses tes chiffres rapidement. Donc, rentre un contrôleur des finances, rentre un directeur des finances, apprends rapidement les finances et je réalisais où est-ce que je perdais de l'argent, où est-ce que j'en faisais. Et c'est là vraiment que je suis parti à la guerre. Moi, dans ma tête, on s'en va rentrer dans chaque département, on le crée, on le solidifie, on le rend rentable. Alors vraiment, c'est comme que je dis, j'ai rentré dans chaque département, passé une année, essayé de revirer les choses, créer une équipe, monter une équipe, voir avoir de la relève qui veut avancer, qui veut faire fonctionner l'entreprise. Et par la suite, je passe au suivant. Donc, en 2017, j'ai commencé par les toilettes portatives et les blocs sanitaires. Par la suite, les fosses septiques et les trappes à graisse. Par la suite, j'ai monté au deuxième étage pour aller à notre étage où est-ce qu'il y a les finances, l'administration et les ressources humaines. Mis un directeur à chaque endroit, chaque salle d'activité de l'entreprise pour par la suite terminé au nettoyage d'égouts, hydroexcavation, et vraiment, la COVID a frappé en 2020, et j'avais déjà fait pas mal de tours. J'avais plusieurs sphères d'activité d'entreprise, plusieurs divisions, plusieurs directeurs qui m'aidaient à faire fonctionner ça, une bonne équipe de mécanique et d'approvisionnement. Et je crois que notre chance, c'est qu'en 2017 et 2020, on a agi rapidement à mettre des choses en place, à mettre une structure en place, à connaître nos chiffres et à se monter une bonne culture d'entreprise pour qu'en 2020, la COVID frappe extrêmement fort Et c'est là qu'on peut en parler plus tard dans le podcast, si tu veux bien, mais qui nous a amené sur un air d'aller incroyable. Désolé, ça a fait partie de notre réalité. On est une entreprise de services sanitaires dans une crise sanitaire, alors il y a eu beaucoup de demandes.
Il y a eu beaucoup de demandes. Disons qu'on était à la bonne place au bon moment. Et pour bien situer l'audience, peut-être que Vincent a un secondaire 2 aujourd'hui, mais sachez une chose, il a pris une organisation à 50 employés. Aujourd'hui, ils sont 500 employés. L'entreprise a fait 10 fois sa taille depuis qu'il a repris la direction de Sanivac. Donc, chapeau, c'est exceptionnel ce que tu étais capable de faire. Donc, force est d'admettre que on a beau aller aux meilleures écoles, on a beau avoir les meilleurs cours, on a beau lire les meilleurs livres, mais à la fin de la journée, c'est une question d'exécution, d'application et d'apprentissage. On fait des erreurs, comme tu mentionnes, de mindset, de pas se laisser avoir, de garder une bonne... un bon entrain, un bon optimisme malgré les défis insurmontables des fois que le monde des affaires nous offre. Mais si on a le bon mindset, comme tu le dis, et qu'on est capable d'attaquer une journée après l'autre, c'est là qu'ultimement, on est capable de faire bouger des montagnes. Mais bon, on revient COVID.
Je veux juste rajouter là-dessus, Antoine.
Oui.
L'équipe.
L'équipe, bien entendu.
T'as beau tout étudier, t'as beau tout connaître de la vie, la plus grande force d'un entrepreneur, quand il sait s'entourer et s'entourer de personnes qui possèdent ses faiblesses, qui possèdent la force en travers de ses propres faiblesses, c'est merveilleux. C'est vraiment ça qui a fait le Sanivac d'aujourd'hui. Donc, j'aurais beau prendre des mérites sur qu'est-ce que Sanivac est devenu, c'est pas moi, c'est l'équipe que j'ai mis en place et j'ai su reconnaître tôt mes faiblesses. Et je veux pas, on en a tous. Donc, moi, je suis un gars d'opération. Je me suis entouré du reste.
Bon. C'est des paroles sages. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens qui nous écoutent. Et bon, 2007 à 2020, tu te mets le nez dans les opérations, un département à la fois, on analyse, on optimise, on délègue, ça m'a l'air d'être ça le modus operandi. Et bon, on a une tempête parfaite qui se présente, 2020, crise sanitaire, on le sait, il y a des organisations qui malheureusement l'ont eu très difficile et il y en a d'autres qui étaient au bon endroit au bon moment. Les commerces en ligne, bien entendu, les entreprises dans le domaine sanitaire, c'est littéralement les organisations qui ne pouvaient pas espérer mieux. Dis-nous comment tout ça se met en place, comment la demande change et surtout comment tu as été capable d'adapter tes opérations.
Bien sûr. Quand la crise sanitaire est arrivée en mars 2020, on était environ 130 employés. On était rendu là comme organisation. Moi, la seule chose qui me fait peur dans la vie, je vous le dis, là, sérieusement, c'est ma grande peur, c'est de manquer d'ouvrage. J'ai toujours pris responsabilité sur mes employés de leur livrer un emploi qui va pouvoir les faire vivre et pouvoir leur amener un salaire à la maison. Donc, pour moi, 2020, pendant la COVID, c'était inimaginable d'envoyer mon monde chez eux et de devoir couper des emplois. Donc, première affaire qui est arrivée en 2020, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour retirer du personnel de mon équipe. Non, c'est moi, je garde chacun de mes personnes dans l'équipe et je dois trouver des façons de rendre ça fonctionnel et rentable pour les faire tous travailler. Donc, je peux officiellement dire que en mars 2020, aucun employé chez Sanivac a perdu son emploi et l'entreprise a commencé à grandir à partir de là. La façon qu'on a fonctionné était assez simple, c'est de dire oui, toujours oui et redire oui. Le client a besoin de quelque chose, on dit oui. Chez nous, si tu dis non, ben ça se peut que ça n'aille pas bien. C'est oui, oui, oui. Et si tu sais pas comment dire oui, ben on va te le montrer. Donc, on dit oui, on trouve une solution par la suite. Alors, le slogan a été rapidement de dire oui. Le téléphone sonnait, c'était débile. Ça n'avait aucun sens. Le téléphone sonnait pour des toilettes portatives, des roulottes sanitaires, des blocs sanitaires, augmenter la fréquence des nettoyages. Une toilette portative qui était nettoyée une fois par semaine passait de une fois par semaine à 7 fois par semaine. Le monde voulait avoir 7 nettoyages, 1 à tous les jours, 7 fois semaine. Et par la suite, était rendu 14 fois semaine. Le monde voulait un nettoyage dans l'avant-midi et un dans l'après-midi. 7 fois par semaine. Donc, juste d'avoir dit oui, ça faisait de nous l'entreprise numéro 1 parce que on était à l'écoute de la clientèle, on leur donnait ce qu'ils avaient besoin. Donc, d'un, il y avait ça, mais de deux, il y a eu aussi les toilettes avec les lavabos et les lavabos aussi dans l'entrée des épiceries, à l'entrée des pharmacies. On s'est vraiment questionné quand la pandémie a frappé, c'est quoi la dernière chose qui va fermer? Premièrement, parce qu'on est une entreprise de service, donc il faut qu'on l'offre à des entreprises qui sont ouvertes. Alors, on a commencé comme ça. On s'est dit, ben, on va attaquer les entrées d'épicerie avec des lavabos parce qu'on avait énormément de volume d'appels pour des lavabos à l'entrée d'épicerie. Ben, ça a été assez simple, mais en même temps compliqué. Tout le monde est capable de s'installer un lavabo, brancher de la plomberie, mais on dirait que personne ne voulait le faire ou tout le monde se questionnait si ça allait durer assez longtemps pour investir là-dedans. Donc, on est allé dans notre garage à l'arrière, chez Sanivac, fait un plan de match, développer un beau lavabo, commence à le designer, commence à le faire fonctionnel, faut que tout fonctionne. Et un coup que tout était mis en place, on s'est dit, OK, là, il faut en fabriquer des milliers. Comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va engager des entreprises. Donc, j'ai engagé deux entreprises en sous-traitance pour nous qui ont commencé à bâtir des lavabos. On avait 45 employés qui bâtissaient juste des lavabos à temps plein pendant la période de la COVID. Mais la chose qui nous a démarqué, qui a fait qu'on a gardé tous nos emplois, c'est que pendant la construction des premiers lavabos, j'ai regardé le lavabo et j'ai dit, on peut pas faire un lavabo comme ça, le monde va pouvoir les remplir d'eau, ils vont pouvoir les vidanger eux-mêmes. Moi, c'est bien beau louer des lavabos, je le fais pas pour les revenus du lavabo, je le fais pour garder mes emplois. Donc, je dois concevoir un lavabo qui doit être fait à partir de mes camions d'entretien, pompés et remplis. C'est là qu'on a modifié un peu le design. Désolé, c'est un peu hypocrite, mais de l'autre côté, moi, je voulais faire travailler mon monde et on l'a fait. Alors, c'est comme ça qu'est parti sur la route le premier lavabo. On a signé avec des métros, des lobes, là, et tout le, tous les grandes chaînes là, d'épicerie. On a commencé à livrer des lavabos. 1, 2, 10, 100, 500. On livrait et ça l'arrêtait pas. On aurait pu en fabriquer beaucoup plus, mais à un moment donné, on pouvait plus fabriquer parce que on avait tous nos camions qui étaient faisables de mettre sur ces routes-là, qui étaient à leur disposition des lavabos à temps plein. Et ma plus grande peur à ce moment-là, c'était, OK, c'est correct les lavabos, mais la COVID a fini quand? Dans 2 semaines? Dans 1 mois? Quand est-ce que tu trouves? Moi, je n'ai pas les camions pour remettre partout sur des routes standards. Les camions sont monopolisés sur des lavabos dans la tête d'épicerie. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, on arrête là, on n'en fabrique plus. Et si les clients en veulent, ben, on va les resserrer, on va essayer de les aider. Mais même à ça, ça n'avait aucun sens. On pouvait mettre le monde sur des listes d'attente et on n'était plus capable. On essayait, mais les camions qu'on devait utiliser, je vais vous rappeler aussi qu'en mars-avril, il fait encore dans le moins d'or. Donc, tous les camions qui doivent desservir ce service-là avaient besoin d'avoir des coffres chauffés avec des réservoirs d'eau chauffés parce que sinon tout gelait. Alors, d'offrir énormément de camions en gros volume qui stationnent dans des garages avec des réservoirs d'eau chauffés, on était rendu un maximum qu'on pouvait opérer et c'est comme ça qu'est arrivé le mois d'avril. Et à fin avril, on a commencé graduellement à retirer certains lavabos pour réapprendre à respirer parce que c'était complètement débile. Et c'est pas mal l'histoire de la COVID où est-ce que c'est là qu'on a starté. On a acheté massivement des lavabos, on a acheté massivement des toilettes portatives, on a acheté massivement des blocs sanitaires, des roulottes sanitaires. Et ben c'était un inventaire assez phénoménal. Juste pour vous dire, on achetait pas mal tout ce qui se faisait au Canada. J'ai reçu une lettre en 2021 pour dire qu'on était le plus grand acheteur de toilettes portatives au Canada. Ça vous donne un exemple.
Aïe, aïe, aïe. À quelle vitesse vous grandissez ici? Donne-nous peut-être un ordre de grandeur. Votre grosseur d'organisation avant mars 2020 et votre grosseur d'organisation en mai 2020, 3-4 mois plus tard, à quelle vitesse t'es obligé d'engager pour maintenir la demande ou plutôt maintenir l'offre liée à cette demande grandissante?
Dans le fond, l'entreprise, on l'a acheté en 2017, en octobre 2017, donc fin 2017. Donc, on peut faire une moyenne qu'on a rajouté 100 personnes par année en 5 ans. Donc, c'est environ ça qui est arrivé. Et c'est pas mal la moyenne qu'on a embauché par année de plus pour ajouter à l'équipe. Donc, pas pire équipe pour subvenir à tout ce qui est RH en arrière de ça. Et vraiment, ça a été plus 100. Et on a continué comme ça. Je me souviens, j'avais fait une entrevue à une petite émission dans notre région en 2021 suite à la COVID et on était 190 que j'avais divulgué comme information en 2021. Alors, On a tapé le 500 cette année et peut-être le 600 l'année prochaine. On suit la demande et on essaie vraiment de faire le mieux possible pour que les clients servent. Le client puisse toujours avoir un oui quand il appelle chez nous. C'est ma ligne directive.
Et bon, la COVID avance. Il y a des montagnes russes. Des fois, les organisations sont fermées. Des fois, les organisations sont ouvertes. Bref, tout le monde s'en rappelle. La sortie de COVID, à quel point la demande descend? Est-ce que tu es quand même capable de maintenir une certaine croissance? Comment ça s'est mis en place de votre côté?
Dans le fond, pour tout ce qui est des services d'entreprise, aucun service a descendu. L'entreprise a toujours tenu sa pente en montant et on a toujours continué d'avancer. La seule chose que j'avais extrêmement peur, c'est tout le volume de toilettes portatives et le volume de roulottes sanitaires et de blocs sanitaires qu'on a fait l'acquisition en 2000. La demande était encore extrême en 2021. Mais on sentait dès le milieu de l'année 2021 que la demande commençait à ralentir. Donc, rapidement, je me questionnais à savoir qu'est-ce que je peux faire comme propriétaire d'entreprise. J'ai acheté tout ce matériel-là, j'ai acheté tout cet inventaire-là et on doit s'arranger par la suite pour le faire travailler et le mettre à notre service, tout ce matériel-là, parce qu'il va revenir dans le cours et il sera pas loué si on continue comme ça. Donc, en 2020, je réfléchissais. En 2021, disons que ça me hantait. Et à fin 2021, c'est là que je me suis dit, ben c'est simple, je l'ai jamais fait. Je croyais pas qu'on allait en arriver là. Mais on va commencer à faire des acquisitions d'entreprises.
Mais
on va
les
faire dans le domaine des... Ouais, exactement. On va le faire dans le domaine des toilettes portatives ou des roulottes sanitaires. Et notre stratégie va être assez simple. C'est qu'on va renouveler le matériel dans les entreprises qu'on va acheter par notre matériel qu'on a acquis pendant la pandémie. Alors, en 2021, commence à monter un plan de match. En fin 2021, on commence à partir à la recherche d'entreprises potentielles pour une achat. Et c'est en 2022 qu'on est allé de l'avant. Là, si je commence à faire la liste de toutes les acquisitions qu'on a faites, c'est assez phénoménal.
Faut en parler.
J'ai une bonne équipe qui m'a porté en arrière de moi.
Faut en parler ici. Bon, je veux dire, réaction stratégique très intelligente. On comprend l'idée. Tu pars à l'acquisition de d'autres entreprises. Parle-nous un petit peu de l'état des lieux que tu fais. Est-ce qu'on est davantage dans un contexte d'expansion géographique, de dire j'offre des services dans certaines régions, il y a certaines régions que je ne couvre pas, je vais aller acheter des organisations qui couvrent ces régions-là? Est-ce qu'on est davantage orienté selon des ajouts de services stratégiques qui pourraient t'aider également à croître davantage? Décortique pour nous un petit peu les différentes acquisitions, parce que si ma mémoire est bonne, et corrige-moi si je me trompe, c'est 6 acquisitions au final que tu étais capable de faire.
Oui, exactement. Ben, c'est sûr qu'il y en a eu en 2022 et il y en a eu aussi en 2023. Donc, je vais tout vous les nommer en ordre et je vais vous expliquer un peu la stratégie en arrière de ça. L'entreprise, comme je vous ai dit, on voulait aller en processus d'acquisition. On ne savait pas du tout comment faire, mais je me suis dit, c'est pas plus pire faire une acquisition que d'acheter une entreprise et d'apprendre de zéro une entreprise qui a 50, 60 employés. Donc, je pouvais pas croire que j'aurais pas été capable de le faire. Alors, on est parti comme idée, puis c'est toujours là la question, c'est est-ce que tu as un rêve et une vision? Dans ma tête, je me souviens, j'étais sur Google Maps et je regardais l'ensemble du Québec. Et là, je me disais, faudrait qu'on soit là pour économiser du diesel. Faudrait qu'on soit là pour offrir tel service. Faudrait qu'on soit... Donc, je regardais beaucoup l'ensemble du Québec et je me questionnais sur les plus et les moins de chaque région, les distances. Et là, je me questionnais aussi, OK, ça me prendrait une place d'affaires à toutes les 1 heure de l'île Perrot pour faire qu'il y a juste 30 minutes entre les 2 places d'affaires. Alors, j'ai commencé vraiment avec ce minding-là. Et veut pas, ben c'est bien beau tous nos rêves, mais des fois, ils arrivent pas dans l'ordre qu'on s'y attendrait. J'ai commencé par approcher l'entreprise Toilette Québec à Saint-Jérôme, qui est une entreprise de toilettes que ça faisait très longtemps qu'elle était en affaires à Saint-Jérôme. On voulait être sur la rive nord de Montréal parce que le volume était là et le trafic, vous le savez, sur la rive nord de Montréal, est assez terrible. Alors, on voulait commencer là. On n'a pas réussi à avoir d'entente avec les propriétaires pour l'instant. Donc, un peu déçu, je me suis mis à me re-questionner, savoir si vraiment c'était fonctionnel et faisable de faire une acquisition. Je commençais à plus y croire. Par la suite, le propriétaire de l'entreprise Outaouais Sanitaire à Gatineau m'a approché avec un document et m'a dit « Je suis prêt à vendre, voici mon entreprise sur papier, on a fait une étude, on a fait une évaluation, on a sorti nos chiffres, blablabla, tout vient avec. Est-ce que tu es intéressé? Première affaire, oui, je suis intéressé. Faisons un appel. On se rencontre dans un appel, premier appel, on close le deal là, lors de l'appel. Juste avec ma compréhension du marché, je pouvais savoir combien l'entreprise valait, je pouvais savoir où est-ce que je m'en allais avec ça, et je voulais absolument faire une acquisition. Alors, la première entreprise qui a été acquérie, c'est Outaouais Sanitaire à Gatineau. L'entreprise Outaouais Sanitaire, c'est la plus grande entreprise de l'Outaouais dans la location de toilettes portatives, et il loue aussi de la toilette à Ottawa. Alors, on a commencé par elle, on était dans le processus d'acquisition, l'acquisition s'est terminée et s'est closée le 1er avril 2022. Pendant le processus d'acquisition, qui s'est passé entre janvier et avril 2022, on dirait que les astres se sont alignés et les propriétaires de l'entreprise Toilette Québec à Saint-Jérôme m'ont recontacté pour me dire qu'ils finalement étaient prêts à vendre et qu'ils avaient un chiffre en tête. Et croyez-moi pas, je leur ai dit oui. Eux aussi. Mais le problème, c'est qu'ils voulaient vendre avant que la saison commence. Parce que comme tout propriétaire d'entreprise qui gère des opérations, si tu peux te débarrasser de pas avoir à gérer la saison forte de l'année, ben t'en es bien heureux. Alors, Outaouais Sanitaire à Gatineau s'est fait le 1er avril et j'ai eu la bonne idée de dire que j'allais acheter Toilette Québec le 1er mai. Alors, on a eu un mois entre les deux entreprises. Donc, achète les actions de Outaouais Sanitaire, achète les actions de Toilette Québec un mois après. Et pendant qu'on était encore dans le processus, bon, on avait acheté une année avant à Coansville un terrain, un entrepôt que, pour moi, mon rêve, c'était de développer tous nos services. En 2021, on avait fait vraiment une belle acquisition de terrain et d'entrepôt. Je voulais développer tout l'ensemble des services d'entreprise, mais comme grand penseur, j'avais pas pensé que c'était très long de développer aussi sur quelque chose d'inexistant. Et c'est présenté à moi dans l'année 2022, avant même que j'acquérisse Outaouais Sanitaire et Toilette Québec, l'entreprise Toilette Stockley à Waterloo, qui m'a approché aussi pour me dire qu'il voulait vendre. Alors, on a fait l'acquisition le 1er juin. Donc, 1er avril d'Outaouais Sanitaire, 1er mai Toilette Québec, 1er juin Toilette Stockley. Pendant qu'on est en train de discuter en mai de l'acquisition de Toilette Stockley et de tout régler la situation, tout régler l'acquisition, les propriétaires de Toilette Armal à Sherbrooke, on a entendu dire qu'ils voulaient vendre et on a sauté dessus. Et eux, ils voulaient vendre rapidement aussi. Donc, on a acheté l'entreprise le 15 juin. Donc, 1er avril, 1er mai, 1er juin, 15 juin. Par la suite, on n'avait pas d'emplacement. On avait des beaux emplacements pour partout, sauf pour Toilette Armal, qui était le dernier. On devait quitter Toilette Armal. Alors, Toilette Armal, je me suis dit, il faudrait que j'achète un garage sur un boulevard passant pour vraiment créer une notoriété de l'entreprise à Sherbrooke. Mais je peux pas acheter de garage parce que l'entreprise est pas assez grande pour se permettre un garage, surtout pas sur un boulevard passant. Donc, j'appelle les compétiteurs de Toilette Armal et je demande s'ils sont intéressés de vendre. Ça a réussi à fonctionner avec l'entreprise Toilette Estrie à Sherbrooke aussi. Donc, commence à négocier Toilette Estrie. Je viens d'acheter Toilette Armal. J'achète une bâtisse à Sherbrooke. Aussitôt que Toilette Estrie est acquis, en novembre 2022, déménage les deux entreprises sous le même toit. Et c'est comme ça qu'en 2022, c'est fait environ 6 acquisitions. Avec l'achat aussi des bâtiments, parce que Sanivac, on a une autre force aussi, on est propriétaire de presque tous nos bâtisses. Donc, c'est beaucoup d'immobilier en gestion et c'est du patrimoine à long terme. Et c'est quelque chose, j'avais un rêve, moi, c'était d'avoir de l'immobilier. Mon père me disait, quand est-ce que tu vas trouver le temps de faire de l'immobilier? Tu n'as même pas le temps de faire d'autres choses que de travailler dans Sanivac. Ben, j'ai dit, je vais acheter de l'immobilier pour Sanivac. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on a développé nos bâtisses, notre parc immobilier et nos entreprises. Et de ce fait, ben, on est arrivé à Noël 2022 avec une acquisition d'une grande majorité des entreprises de toilettes portatives au Québec. Il y a encore beaucoup de joueurs, mais on a fait des acquisitions des plus grandes entreprises pour tous les fusionner au nom de Sanivac et opérer au nom de Sanivac. Alors, rebranding majeur, changement de nom des entreprises, toutes les amener aux couleurs de Sanivac, refaire l'image des camions, moderniser les flottes de toilettes, les collants sur les toilettes, les réparations, les numéros de série, amener ça à l'image Sanivac, fonctionner avec les téléphones. Alors, c'est vraiment là qu'on est arrivé à amener ça sous un groupe qui est le groupe Sanivac. Et on opère vraiment tous ces entreprises de toilettes portatives-là dans une seule et grande compagnie avec plusieurs divisions un peu partout au Québec. Pour, par la suite, en 2023, faire l'acquisition de Cabinet Joseph à Granby. Cabinet Joseph à Granby, c'était un autre grand joueur de l'Estrie. Et Cabinet Joseph et l'année précédente, l'entreprise Cabinet Stockley, ces deux entreprises-là, on les a déménagées à notre garage que j'avais fait l'acquisition en 2021 à Coansville. Et aujourd'hui, on a des belles flottes, on a des beaux équipements, on a plusieurs employés à travers de chacune de nos places d'affaires qui sont sous le nom de Sanivac. Et venu par la suite, en juin 2023, ça c'est un beau rêve qu'on a réalisé en équipe, je vais toujours m'en souvenir, mon directeur qui s'occupe de l'hydroexcavation chez Sanivac est venu me voir en 2022, puis il a dit « Moi, je vois tout le monde faire des acquisitions dans le domaine des toilettes, je vois bouger avec l'équipe des toilettes, je veux mon département aussi grossir, j'aimerais ça acheter mon plus gros compétiteur, est-ce que tu voudrais le faire, Vincent? » Ben, j'ai dit « Bien sûr, quand est-ce que tu veux qu'on avance dans ce projet-là? » Il m'a dit « Ben, j'aimerais ça qu'on les approche environ en août 2023 pour les acquérir. » L'hiver commence à arriver, on arrive dans l'hiver 2022-2023 et pendant l'hiver, on voit qu'on est capable d'en prendre plus dans le domaine de l'hydroexcavation et j'aurais dit à mon directeur qui m'avait approché, Mathieu, est-ce qu'on les approche tout de suite? Il dit « Ben oui, on le fait tout de suite. » Et le plan de match qu'on avait à la base de commencer à approcher l'entreprise Excavac au mois d'août 2023, ben notre plan n'a pas fonctionné parce que on achetait officiellement Excavac le 1er juin 2023. Donc, l'entreprise a été négociée et a été acquérie entre le mois de janvier et le mois de juin 2023. C'est là qu'on est devenu le groupe qu'on connaît aujourd'hui. 425 employés dans Sanivac, qui sont tous nos succursales, tous nos places d'affaires avec toutes les entreprises de toilettes qu'on a achetées. Et 75 employés dans Excavac, qui est situé à Saint-Hyacinthe, qu'on a aussi acquéri le bâtiment, et à Québec. Donc aujourd'hui, une entreprise de 500 employés avec environ 8 acquisitions courant des deux dernières années. Désolé si c'était long, mais c'était une longue histoire.
Mais Vincent, c'est exceptionnel ce que tu viens de nous raconter. On dirait que tu le faisais avec une certaine naïveté, comme si c'était normal d'aller acheter une entreprise par mois, une entreprise aux deux semaines. Ça n'a aucun sens, tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Et dis-moi, on dirait, à t'écouter parler, que au niveau du financement, tout se faisait facilement. Est-ce que les banques vous ont aidé ou vous avez été capable de bâtir une belle santé financière à travers les années qui vous a donné un peu ce pouvoir d'aller acheter ces entreprises-là aussi rapidement?
Oui, on a bâti une entreprise rentable. Je veux pas, ça a été la force du groupe de rapidement s'entourer de directeurs des finances et de contrôleurs et de connaître nos chiffres rapidement tous les semaines. Donc, l'entreprise, on est au fait de ce qu'on fait et de ce qu'on facture et de, je veux pas, tout ce qui vient autour des finances d'entreprise. L'entreprise, on essaie de la rendre saine et de la rendre rentable, comme je dis, mais surtout, la plus grande force d'entreprise, c'est qu'elle est détenue à 100% par Caroline, David et moi. On n'a aucun actionnaire dans l'entreprise. Et depuis 6 ans, depuis l'année qu'on a fait l'acquisition, on a toujours tout remis les bénéfices de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise pour investir dans l'entreprise. Nous, c'était un but, c'était un souhait. On voulait une entreprise qui allait être à long terme présente, qui allait être solide, bien ancrée. Et on cherchait pas à être à la bourse ou à avoir du private equity. Désolé l'anglicisme. On cherchait pas ça. On cherchait une entreprise québécoise, un groupe québécois fort avec 3 actionnaires qui sont les 3 Kelly et de réinvestir massivement chaque année pour vraiment ouvrir tous les portes possibles qu'on peut ouvrir avec le réinjecter capitaux. Donc, c'est comme ça que Sanivac est devenu grand. Oui, il y a eu de l'aide de la banque pour nous aider dans le financement, mais il y a eu beaucoup aussi de réinjection de capitaux. Donc, c'est un mélange des deux, mais comme je vous dis, puis je le réaffirme, Sanivac, 3 copropriétaires, 3 petits Kelly et pas d'actionnariat autre que ça. Donc ça, je pense que c'est ma plus grande fierté quand je regarde l'externe de l'entreprise aujourd'hui. Et oui, on a toujours eu quand même de la facilité avec tout ce qui a rapport au financement parce que on possède beaucoup de bâtiments, on possède beaucoup d'actifs, beaucoup de camions on réinjecte les capitaux. Alors, quand on met tout ça ensemble, ça fait des entreprises très solides et je crois que quand le service est là, il y a rien qui peut t'arrêter. Donc, C'est pas mal ça pour répondre à ta question.
Un entrepreneur extraordinaire, Vincent Kelly. Dis-moi, à quoi qu'on peut s'attendre dans les 12, 24, 36 prochains mois? Est-ce qu'on prend un petit arrêt, un petit break d'acquisition ou au contraire, on est encore en forte accélération avec l'organisation?
Ben franchement, je le sais pas. J'ai toujours voulu amener mon monde à un autre niveau. Je crois que ça donne rien d'apporter une entreprise à un niveau tellement élevé que le monde qui l'occupe ou qui sont présents dedans soit pas capable de suivre la vitesse à laquelle elle va. Et pour nous, l'entreprise, ben, en 2024, on s'est dit qu'on allait un peu ralentir. On allait prendre le temps de peaufiner, d'améliorer nos processus, d'améliorer certaines choses dans l'entreprise. Mais on reste toujours, on reste toujours au fait, on veut toujours savoir ce qui se passe sur le marché parce qu'on ferme pas de porte. Mais on n'est pas en mode agressif comme en 2020 ou 2021. On ne ressent pas ce besoin-là. Souvent, puis il faut se poser la question comme entrepreneur, faire une acquisition, c'est soit de l'ego parce qu'on veut du marché ou soit parce que on n'a pas le choix de faire l'acquisition. Puis on se questionne à savoir c'est quoi les dangers de pas faire cette acquisition-là. Nous, Sanimax, c'est un peu ça qui s'est passé. On a passé cette étape-là de se questionner c'est quoi le danger. Je crois que le danger est un peu, pas éliminé, mais il était diminué. Et là, on est rendu dans un endroit au niveau de l'entreprise où est-ce qu'on peut se permettre de ralentir pour un petit temps et vraiment prendre le temps de peaufiner, améliorer, laisser le monde aussi respirer. Là, je veux pas, c'est mon équipe qui ont travaillé extrêmement fort en 2022 et en 2023 pour tout faire ces acquisitions-là. Alors, 2024, on le voit comme une année de répit, mais une année aussi stratégique, à peaufiner la vision, peaufiner où est-ce qu'on s'en va, comment est-ce qu'on va le faire. Mais je vous cacherai pas qu'en 2025 ou dans le futur, si on va de l'avant, on aimerait en faire une acquisition, mais de plus grande ampleur. Parce qu'on a réalisé qu'à faire 6 petites acquisitions, c'est beaucoup plus compliqué que d'en faire une plus grosse. Alors, on est rendu là comme entreprise, on est à l'écoute, on recherche, on regarde, mais on veut pas fermer de porte sur la vie.
Fantastique. Et dis-moi, avant de terminer, des petites questions personnelles. Es-tu un amateur de lecture? Je vois plusieurs livres derrière toi, là, donc pour les gens qui nous écoutent, peut-être sur YouTube et qui voient le volet vidéo, il y a plusieurs bons livres qui ont l'air d'être derrière Vincent. Quelle lecture niveau affaires a marqué ton imaginaire que tu pourrais partager avec notre audience?
Je te dirais beaucoup de biographies. J'aime beaucoup les biographies d'entrepreneurs québécois qui ont réussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup aimé « Les 5 grands rêves de vie ». C'est quelque chose qui m'a aidé dans mon cheminement. Et le livre « Père riche, père pauvre », je crois que c'est quelque chose qui a été aussi marquant pour moi. Donc, biographie, père riche, père pauvre et les 5 grands rêves de vie, ça a été quelque chose d'intéressant dans mon développement.
Fantastique. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
Énormément. Le tien. Ah. j'écoute beaucoup de choses qui ont rapport à l'entrepreneuriat. Alors, nomme-les tous. Là, tout ce qui est québécois, j'essaie beaucoup de regarder ce qui se fait au Québec. Mais j'en écoute aussi un peu en anglais. Donc, j'aime le développement personnel énormément. Tout ce qui touche là, à les grands noms là, du développement, autant à Tony Robbins ou à Grant Cardone ou peu importe, là, tout ce qui est développement, c'est des choses que j'aime regarder, écouter attentivement.
Fantastique. Et je terminerai. Routine avant, pendant et après le travail, ça ressemble à quoi de ton côté?
Je suis un gars de routine. Je l'ai réalisé avec le temps. Si je n'ai pas de routine, je perds l'équilibre. Alors, la routine, c'est de me lever à 4h30 tous les matins, jusqu'à 5h30 l'entraînement. Ensuite, le déjeuner, lecture jusqu'à 6h. Et par la suite, là, à 6h, je suis dans mon bureau en train de travailler. J'ai appris à me calmer parce qu'avant, c'était plus intense que ça, disons. On apprend à relaxer avec les années. Alors, c'est surtout le matin ma routine et le soir avec la famille et les enfants. J'ai 3 enfants.
Vincent Kelly, c'est exceptionnel ce que vous avez été capable de faire avec Sanivac. Faut être fier de ça. Vous êtes assumé en tant qu'entrepreneur qui voulait grandir vite. Vous avez eu peur de rien. Toi et tes deux partenaires d'affaires. Félicitations. J'espère que ça va inspirer les gens Merci. Qui nous écoutent de voir grand, de voir gros, de pas avoir peur de quand on sent qu'il y a une opportunité. Parce que c'est ça un peu qui s'est déroulé. Vous avez, on utilise en anglais, you felt the blood. Donc, t'as senti quelque chose devant toi qui se déroulait. Or, c'est d'admettre que quand tu es une entreprise dans le domaine sanitaire en plein COVID, je veux dire, 1+1, on est capable de faire l'équation assez rapidement. Tu vois les entreprises devant toi qui peut-être ne veulent pas faire la prochaine saison. Une après l'autre, tu mets la main dessus. Et aujourd'hui, ça te fait de toi un leader incontesté au Québec, peut-être même au pays. Bref, une histoire fascinante. Et comme tu le disais, peut-être pas un gros cheminement à l'école, mais au niveau affaires, ce que tu es capable d'accomplir. Un pourcentage infime des entrepreneurs vont atteindre des chiffres comme toi aujourd'hui. Donc, félicitations, je le répète, c'est assez exceptionnel tout ça.
Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Je crois qu'il faut rêver, avoir une vision et jamais arrêter. Mais c'est pas très compliqué. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué.
Faut le vouloir et faut avoir envie, faut pas avoir peur. Donc Vincent, écoute, ça a été fantastique. On mettra des liens de votre organisation dans les notes de l'épisode. Je te remercie encore. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.